Bonjour bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur, car toute grâce vient de lui. Éternel notre Dieu, l'Éternel est vivant. Je réussis à enlever ce truc, j'espère. Ce matin, je voulais nous encourager, comme tous les dimanches, à cette lecture, cette méditation de la parole de Dieu. C'est d'elle que nous tirons notre force, c'est elle qui est notre guide. Comme le dit le psaume, c'est elle qui est la lumière sur notre chantier. C'est vrai que ce culte est particulier parce que notre Église vit quelque chose de spécial. Spécial dans le sens où l'espérance qui est attachée à nous se manifester. Notre espérance, c'est d'être un jour auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Et quelqu'un a dit une fois à un chrétien, il disait à ce chrétien, mais toi qui es chrétien, quand tu parles de la mort, j'ai plus envie de ne pas mourir que toi. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que ce chrétien, en fait, quand il parlait de la mort, il parlait de la mort un peu plus en termes de quelque chose qui lui-même lui faisait peur, en fait. Il dit, si toi qui es le chrétien, si la mort te fait peur, et moi alors? On a tous peur de la mort. Aucun de nous ne peut dire, j'ai pas peur de la mort, c'est pas vrai. C'est notre espérance qui fait cette peur, que cette peur est dominée. Parce qu'on connaît pas la mort. On n'est pas créé pour mourir à la base. On a été créé pour vivre éternellement. Donc, la Bible dit qu'en nous, il y a cette activation de l'éternité. Nous savons au fond de nous que nous avons été créés pour l'éternité. Et beaucoup de légendes humaines montrent bien qu'on est créé pour l'éternité. Quand on parle du bain de jouvence, de l'éternelle jeunesse, voilà. On a toujours dans les légendes de nos cultures, quelles que soient les cultures, cette idée qu'on peut vivre longtemps sans fin. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes touchés directement par quelqu'un qui part, et je pense que dans notre parcours humain, en tout cas pour la grande partie d'entre nous, nous avons perdu dans le parcours de notre vie quelqu'un de cher. Je vous parle avec beaucoup de réserve, parce que nous, on a des plaies, mon épouse et moi, qui ne sont pas encore guéries. Malheureusement, on a perdu quelqu'un de cher il n'y a pas longtemps. Et quand on perd quelqu'un, c'est toujours une douleur. C'est une séparation. Qu'elle soit âgée, qu'elle soit moins âgée, c'est une séparation. Encore quand elle est moins âgée. Ce que cette douleur nous rappelle, c'est qu'on est des pèlerins sur la terre. Nous sommes tous des pèlerins. La terre n'est pas notre dernière destination. C'est l'une de nos destinations. C'est pas la dernière. Il semble que dans la pensée de Dieu, c'est la première destination qu'il nous alloue lorsque nous sommes en projet dans la pensée de nos parents et que nous venons à la vie. La première destination, c'est vivre ici. La Bible dit la terre, c'est pas simplement en parlant du globe terrestre, parce que la Bible dit la terre en parlant de l'univers créé de Dieu. Mais en même temps, nous devons nous rappeler, lorsque ces événements nous touchent de près, que nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Alors que nos vies doivent être, si nous sommes pèlerins, nos vies doivent être vraiment maculé, enraciné, imbriqué, forgé dans l'amour. L'amour de Dieu est l'amour de ceux qu'on aime. Un chanteur séculier non chrétien disait, parce que je sais qu'il y a la mort, chaque jour je veux vivre l'amour. Chaque jour. Encore non plus les chrétiens, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus nous dit, que nous devons être des gens qui sommes encouragés à vivre pour l'amour de Dieu. Alors, ce matin, quand nous prions encore pour ceux qui ne connaissent pas Dieu dans nos familles. Parce que quand l'épreuve de la mort nous touche, on sait que voilà, à un moment ou un autre, ceux que nous aimons, ceux qui sont chers, vont peut-être partir. La question c'est où vont-ils aller? où vont-ils aller? Donc nous prions de tout notre cœur. Quand nous avons l'éclairage biblique et que nous savons la fin de notre parcours terrestre, nous avons encore cette hargne de prier pour eux. Nous avons encore ce zèle de dire, Seigneur Jésus, montre-leur qui tu es, sauve-les. N'est-ce pas? Parce que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 27 à 28, il est dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une fois pour toutes, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Ce Christ-là, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. C'est-à-dire que toutes ces religions, je critique personne, je dis juste le constat biblique, toutes ces religions qui disent que on meurt, on revient 10 626 fois, c'est pas vrai. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Donc nous avons, comme les jeunes le disent dans leurs jeux vidéo, on n'a pas plusieurs vies, on n'en a qu'une seule sur la terre. On n'en a qu'une seule, on a une seule bande de vie sur la terre. Et quand elle est achevée, quand Dieu décide qu'elle est achevée, il nous rappelle à lui, qu'on soit chrétien ou pas. Et devant la disparition de quelqu'un de cher, c'est ça qu'on doit se rappeler en premier. Car il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi il va rentrer dans la présence de Dieu. De quel côté va-t-il rentrer dans la présence de Dieu? C'est là la question. Et la question n'est pas pour celui qui est parti, parce que celui qui est parti, il est déjà parti. On va avoir la douleur de la séparation, on va avoir sa mémoire en nous, on va se rappeler de lui toute notre vie si c'était un parent, la mémoire de quelqu'un qu'on perd nous reste attachée. On la communique même à nos enfants, parce que voilà, c'était un membre de la famille, son histoire reste dans la famille. Mais la personne, elle est partie, et son destin éternel est scellé. Et si c'est un croyant, honnêtement, je vous lirai un texte qui dit, nous on n'a plus de soucis à se faire pour elle, parce que elle, si elle était croyante, elle a plus de soucis du tout. Et bien plus, elle se soucie de ceux dont elle se souvient. Parce que Jésus dit cette parabole du riche et du pauvre Lazare, le riche qui ne se souciait pas de Dieu, qui faisait tout ce qu'il voulait. Et la Bible dit qu'il est mort, et c'est Jésus qui raconte l'histoire. Si c'est Jésus, c'est Dieu qui dit cette histoire-là. Il dit, quand ce riche, il est mort, en fait, il est allé dans la géole, ce qui est le châtiment éternel. Et dans cette géole, il dit à Abraham qu'il voit avec le pauvre, qui lui, malgré sa pauvreté, a gardé son intimité avec Dieu, et donc qui est dans le sein d'Abraham, donc ce qu'on appelle le paradis par la suite. Il dit à Abraham, Abraham, Père Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à Lazare? Est-ce que tu peux ressusciter Lazare? Pour que Lazare aille avertir mes frères, parce que mes frères sont sur le même chemin dangereux que moi. Et vu ce que je souffre ici, j'aimerais pas que mes frères viennent ici. Donc, ceux qui partent se soucient de... Et Abraham de lui dire, il n'y a qu'une seule bande de vie. Une fois que cette bande est achevée, on ne peut plus rien faire. Et tes frères, en fait, il dit, tes frères, ils ont la parole de Dieu. Il dit, ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils entendent continuellement la parole de Dieu. Même si un mort ressuscitait, c'est pas ça qui va leur faire changer d'avis. S'ils n'ont pas changé d'avis par rapport à la parole de Dieu, même un mort ressuscité ne leur ferait pas changer d'avis. Dans ma petite carrière de pasteur, j'ai accompagné des personnes, et je le rappelais dernièrement dans une réunion de prière avec quelqu'un. Il y a des personnes que vous accompagnez en tant que pasteur, ça vous forge dans votre espérance chrétienne, et ça vous tient debout. Je l'appellerai N, celui dont je veux parler. J'étais proche de N. Et pendant 2 ans, nous avons été dans la même église. N était atteint d'un cancer. Il le savait, son diagnostic était annoncé. Dans ce genre de cas, quand c'est un cancer fulgurant, on vous dit à peu près le nombre d'années que vous avez. 2 choses qui m'ont marqué malgré qu'il savait cela, c'était sa dignité dans la maladie. Et puis la deuxième chose, c'est sa foi chrétienne, sa foi dans le Christ ressuscité. N avait une dignité dans la maladie dont il souffrait. J'ai toujours trouvé N assez digne dans cette maladie. Il parlait de la maladie avec calme. Il prenait le temps de m'expliquer à quelle étape du protocole médical il se situait, même s'il se rendait compte que je ne comprenais pas tous les éléments techniques qu'il me disait. J'avais toujours le sentiment que les choses ne l'angoissaient pas plus que cela. Il les prenait comme elles venaient. Il était confiant et affrontait ses rendez-vous avec simplicité. Il disait souvent, « J'ai un rendez-vous la semaine prochaine et on verra. » Ou encore, « On va me faire changer de traitement pour essayer un nouveau protocole. » Il disait ces choses avec un certain naturel. Même quand il était faible, quelquefois, il trouvait la force de venir à l'église les dimanches. Ça m'a parlé. Que quelqu'un comme N, même malade, trouvait le temps de venir à l'église les dimanches. Et parfois, nous qui sommes bien portants, les dimanches, ça va, ça vient. La dignité de N et sa confiance dans le Seigneur. Lui, il savait qu'il lui restait quelques jours, c'était annoncé. Certes, on a prié pour N aussi, parce que nous sommes des croyants, on a prié que Seigneur, ce cancer, tu peux le bouleverser, n'est-ce pas? Et il le vivait comme ça, mais en même temps, voilà. Et puis la deuxième personne, je l'appellerai B. Dans l'épreuve de la maladie, elle a toujours eu confiance en Dieu. Elle lui adressait ses prières et lui remettait en dernier ressort l'issue de sa vie. Elle n'a jamais voulu laisser la maladie l'empêcher de s'occuper de sa famille, encore moins de détruire sa foi en Jésus-Christ. Bien au contraire, B cherchait toujours à mieux comprendre la foi chrétienne pour mieux la vivre dans la maladie. Certes, elle est partie par la maladie, mais son amour pour sa famille et sa foi en Dieu ont triomphé. Les dernières fois où j'ai vu ces deux personnes, N, il était en soins palliatifs, il pouvait plus réagir avec nous. Son père qui n'était pas croyant était à ses cheveux. Il se faisait tard, je suis allé le visiter, je priais pour lui. Et c'est l'une des rares fois où j'ai eu une belle conversation avec son père qui était incroyable. On a papoté un certain temps dans la cour. J'ai prié avec lui. Et les jours qui ont suivi, il n'a même pas dit. Quant à B, lors de ma dernière visite à l'hôpital, alors que je marquais un coup parce que voilà, je ne l'avais pas encore vu dans cet état assez touché par la maladie, elle a cru que j'allais pas lui faire les accolades. Elle m'a dit, Serge, tu ne fais pas les accolades? Je dis, mais pourquoi pas? Et puis elle était couchée dans son lit, je lui ai fait les accolades. C'était la dernière fois que je voyais B. On a eu une bonne conversation avec ses parents aussi qui étaient autour de son lit. Ce qui est difficile, c'est quand les parents te disent, il n'y a que toi qui peux accompagner les obsèques de mon frère ou de ma sœur. Tu dis, waouh. Ouais, c'est vrai que, voilà. Mais ce que je retiens de ces deux parcours de vie, c'est que quand on croit en Christ, ça compte. Quand on a la foi, quand on a confiance en Dieu, ça compte. Et que peut-être il faut qu'on se demande nous-mêmes là, ça veut dire quoi pour nous avoir confiance en Dieu? Pendant que nous sommes bien portants, pendant que nous sommes vivants. Parce que ces frères-là, quand ils sont dans cet état, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent ce que ça veut dire. Nous savons tous que la mort n'était pas l'objectif de Dieu pour nous, c'est le péché. Malheureusement, d'Adam et Ève qui ont fait rentrer la mort comme une sanction. La mort apparaît dans notre vie humaine comme une sanction. La mort n'est pas naturelle. La mort est une conséquence d'un péché. Quand on dit naturel, c'est comme si ça a été toujours comme ça. Non, au départ, c'était pas le projet de Dieu. Voilà. Et puis, ce péché a fait que c'est devenu notre projet à nous, malheureusement. Et donc, la mort est une conséquence du péché. Genèse 2, verset 17, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que malgré tout, le projet de Dieu, c'est pas la mort, c'est la vie éternelle. Même si la mort biologique nous atteint, mais Dieu, son projet a toujours été le même, de nous donner l'éternité, de nous accorder cette éternité. Ça paraît loin, bien sûr, ça paraît loin. Mais quand on est touché directement par quelqu'un qui part, on se rend compte que c'est pas si loin que ça. Que nous sommes tous en sursis, en fait. Et que le sursis que nous avons, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Celle dont nous parlons là, honnêtement, de ce que tous ceux qui sont là connaissent de cette personne, comme on dit souvent, pourquoi elle, quoi? Il y a quelqu'un qui a fait une prière méchante, mais c'était très méchant. Mais c'était sa haine devant une situation comme ça. Hein? Il disait, lorsque une personne chère lui est partie dans cette même tranche d'âge, il dit, mais le drogué, là, tu l'as pas pris. Ce voyou de brigand qui fait du mal à tous les gens, on sait qu'il est comme ça, tu l'as pas pris. Pourquoi elle? C'est rien du tout. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais le pourquoi elle n'a pas de réponse quand on sait comment la personne elle-même elle a vécu. Et c'est pas à moi de le dire. Les parents de notre sœur le diront. Ses frères et sœurs le diront. Il y a des fois, tu vas encourager des gens et c'est toi qui sors de cette famille encouragé. Tu dis, waouh, c'est incroyable. Les conséquences du péché, c'est le péché, c'est la culpabilité du péché et c'est la mort. Le péché originel a entraîné le péché, n'est-ce pas? Le péché prolifère. Donc le péché, c'est le mal. Le mal défini par Dieu, non pas défini par nos civilisations, ni par notre monde à nous, parce que notre monde, en fonction des civilisations, des époques, le bien devient mal, le mal devient bien. Hein. Mais Dieu, il est constant. Ce qu'il appelle mal, c'est inscrit dans la parole de Dieu, et c'est mal jusqu'à ce qu'il revienne la deuxième fois. Il faut s'en rendre compte et faire attention à ces choses. Et la colère de Dieu est sur le péché, justement. Parce que Dieu est juste. La mort dans la Bible, et dans notre conception évangélique, il y a ce qu'on appelle la mort biologique, mais il y a la mort spirituelle. Vous savez, nous tous qui étions là, nous étions morts spirituellement. Jusqu'à ce que Christ rentre dans nos vies. La Bible dit que sans Dieu, en fait, comme dans certains films, on est des zombies, en fait. Parce que sans Dieu, nos vies, elles vont directement dans le mur. Que ce soit ici, ou que ce soit après, on va dans le mur parce qu'on le connaît pas. On le connaît pas parce qu'on vit comme on veut ici, mais les conséquences aussi sont là. Mais en fait, si on meurt sans connaître Dieu, c'est encore pire parce que là, la destinée, elle est horrible. Elle est horrible. Certaines religions sont encore plus inventives, plus imaginatives sur l'enfer que la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est une foi sobre sur l'enfer parce que Jésus n'a pas dit beaucoup de choses. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit par rapport aux riches, hein, ces tourments éternels, ces grincements de temps. Mais certaines religions vont plus loin en vous décrivant l'enfer. Vous dites, oulala! Non seulement ils sont dans le faux, mais la façon dont ils décrivent l'enfer, c'est encore terrible. Dans certaines religions, on dit l'enfer, c'est, tu seras dans une boîte et des serpents te piqueront toute la journée et tu seras brûlé par le feu toute la journée. D'où vous sortez ça? Mais c'est l'horreur de l'enfer qu'il décrit, parce que l'enfer est un endroit horrible de souffrance. C'est pas un jeu souvent. Quand on dit aux gens l'enfer, ils croient qu'on est là pour. Ils croient que c'est parce qu'on est des hyperlulus de parler de choses bizarres. Non, la Bible le décrit. Cet endroit, c'est pas une destination qu'on veut souhaiter à qui que ce soit. Encore moins à ceux qu'on aime. Il dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, parlez-en. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, il faut le proclamer, il faut le dire, il faut l'annoncer, il faut prier pour, il faut intercéder pour que tous ceux que vous aimez puissent rencontrer ce Seigneur et être déviés de cette destination horrible qu'est l'enfer. L'enfer, c'est pas un jeu. La vie non plus, ce n'est pas un jeu. Vivre sa vie, c'est tout un projet. Ceux qui vivent la vie comme un jeu, ils s'embrouillent les dos. Mais ceux qui vivent la vie comme un projet, avec ses bons moments et avec ses moments difficiles, peuvent s'en sortir mieux, n'est-ce pas? Cette mort spirituelle, c'est Christ qui intervient pour arrêter ce processus. C'est lui qui est notre avocat, c'est lui qui paye le prix et qui donne l'opportunité d'échapper à cette mort spirituelle. Pendant que nous sommes encore vivants sur la terre des hommes. L'as-tu saisi cette opportunité? Je l'espère et je le crois pour ceux que je connais et comme je connais la majorité d'entre vous. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons certainement saisi cette opportunité-là de cette annonce du salut de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit qu'à tous son péché, Romains 3, 23, tous son péché sont tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui peut dire, moi, Dieu, je rentre dans ton paradis, nickel. C'est pas possible. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe pas à moi. Sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Ça paraît dur, mais c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est Dieu qui a créé son monde, c'est lui qui établit les règles. C'est comme si un père de famille établit les règles dans sa maison et tu arrives dans sa maison, tu dis, non, aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. Il dit, oula, d'où viens-tu, toi? Ici, c'est chez moi. Et en plus, le projet initial de Dieu est un projet d'amour, un projet de bonheur. Donc, si c'est un projet de bonheur, les règles qu'il a mises, c'est des règles de bonheur. La mort corporelle nous atteint parce que justement le péché nous atteint. Les médecins définissent cette mort corporelle, cette mort physiologique, comme l'arrêt des fonctions cérébrales, l'arrêt du battement cardiaque, l'arrêt des fonctions vitales, la perte irréversible des fonctions vitales. Et donc, physiologiquement, on ne peut plus être en contact avec les autres êtres vivants parce qu'on n'est plus ici. Parce qu'on a fini notre relation ici. Avec les êtres humains. C'est irréversible. Mais ce n'est pas la fin de notre destinée. Non. Et c'est là l'erreur. L'erreur de notre monde civilisé, c'est de dire, on appelle ça la théologie de l'annihilisme. Ça veut dire qu'en fait, vu que humainement, corporellement, physiologiquement, on est fait de minéraux, et qu'effectivement, quand on meurt, notre corps se décompose, il part à la poussière, ils disent après la vie, lorsque quelqu'un meurt, bah, il n'est plus rien. Il est le néant. Parce que dans leur conception, on n'a pas d'âme. L'âme n'existe pas. En fait, on est un amas de flux nerveux. Donc, quand les flux nerveux finissent de fonctionner et que le cœur s'arrête et qu'il n'y a plus de fonction cérébrale, en fait, on n'est plus rien, on est néant. Donc, vu qu'on est néant, ça veut dire qu'il n'y a rien après. Donc, vis ta vie. C'est ce que tu veux. De toutes les façons, il n'y a rien après. Après, tu es du néant. C'est la grosse supercherie de notre civilisation. C'est une supercherie. On n'est pas le néant. La Bible dit que quand Dieu a créé l'être humain, il a pris la poussière, donc les éléments minéraux qu'il a façonnés encore, il y a insufflé un souffle de vie qu'on appelle l'âme. Donc, chaque être humain, là où nous sommes, chacun de nous a une âme vivante. Et quand nous mourons, en fait, c'est que cette âme a cessé d'interagir avec les autres humains, qu'elle est retournée auprès de Dieu. On n'est pas du néant après la mort. Notre âme vivante, qui est vraiment l'être éternel, celle-là, elle quitte cette enveloppe corporelle, elle se retrouve devant Dieu. Elle se retrouve devant Dieu. Et c'est là que notre vrai parcours commence, puisque là, on rentre dans l'éternité. C'est pas des choses sur lesquelles on a beaucoup d'informations, mais c'est Jésus qui nous les dit. Si Jésus nous dit quelque chose qu'on n'y croit pas, bah sortons de cette église, fermons la Bible. La foi, en fait, on n'a pas besoin de la foi parce que si Jésus dit ça et que c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait là? Et l'apôtre Paul dit, si c'est pas vrai, mais en fait, on est les plus malheureux. Donc en fait, il dit, on se trompe nous-mêmes depuis des millénaires. Or, Jésus n'a cessé de dire, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je vous dis, bah, vous ne pouvez rien croire après. Parce que moi, je suis Dieu. Je viens du Père de lumière. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Créateur de la vie. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Parlant de Jésus. Celui qui était la lumière des hommes est venu habiter parmi les siens. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui ont accepté de le reconnaître, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme, non, comme moins du sang et de la chair, mais par la volonté de Dieu. C'est lui qui est la vie, est devenu comme nous. Jésus est la vie. C'est lui qui est l'auteur de la vie. S'il y avait un brevet à déposer quelque part, ce brevet de la vie s'appellerait Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Donc ce qu'il dit est vrai. Après, qu'on soit 6% de la population française à le croire, ça change rien. C'est pas parce que c'est 6% de la population française qui croit que c'est faux. C'est faux. C'est... Jésus est la vie. C'est lui qui donne la vie. De son époque à lui, beaucoup l'ont pas suivi non plus. Hein. C'est quelques-uns qui l'ont suivi. Hein. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, je pleure sur toi. Je pleure sur toi. J'étais venu pour te couver comme une poule couve ses poussins. Mais tu ne m'as pas reconnu. Il dit, je pleure, je suis triste pour toi. Parce que le jour de ta visitation a sonné, mais tu n'as même pas discerné que c'était Dieu qui te visitait. Tu es passé à côté de ta grâce, Jérusalem, Jérusalem. Ne passons pas à côté de la grâce que Dieu nous fait. Lorsque la mort nous atteint comme ce week-end, c'est ça que ça doit remonter en nous. Le sage dit, n'allez pas là où on fait fête et là où il y a la fête tout le temps. C'est une façon de parler. Il dit, n'allez pas tout le temps là où on fait la fête parce que, en fait, là où on fait la fête, bah, c'est la joie, hein. C'est le bonheur. Donc, on n'a pas le temps de se soucier des choses. Il dit, allez quelquefois là où il y a le deuil. Ça vous interroge sur la qualité de la vie et l'itinéraire dans lequel on est. Et pour fuir ces choses, notre monde, en 2012, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est là que tu peux projeter la diapo. En 2012, et c'est sur ça que je vais terminer, quelques diapos. Le 21 décembre 2012, vous vous souvenez de cette date? 21 décembre 2012. Ben, je vais vous la rappeler. Ça fait-il tout pas? Du tout? D'accord? C'était l'année 2012, c'était l'année du calendrier Maya. Ça a défrayé toutes les chroniques qu'on a dit. Selon le calendrier Maya, c'est la fin du monde. Parce que c'est un calendrier qui a été assez fidèle sur toutes les périodes, tout ce qu'ils ont plus ou moins annoncé s'est passé dans le monde entier. Et puis on guettait le 21 décembre 2012. Wow, qu'est-ce qui allait se passer? Vas-y. Ce magazine, c'est l'un des magazines les plus sérieux au monde. Le Monde des Religions. Les articles qu'ils font, c'est des articles, et moi je suis abonné à ce magazine, parce que c'est des articles, même si je suis pas d'accord avec tout, hein, mais vraiment c'est le top du top, et ils ont titré le calendrier Maya décrypté, les religions et la fin des temps. Ils ont fait tout un numéro spécial dessus. Incroyable. J'étais à la maison encore aujourd'hui. Et même, à l'époque, on savait où fallait se cacher pour fuir la fin du monde. C'était à Bougara. C'est ici en France. Oui. Allez sur Internet, tapez Bougara 2012. Et les gens ont commencé à acheter des parcelles de terre. Le maire de la ville était dépassé par l'événement. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Les gens faisaient des réservations dans des petits hôtels. C'est une petite ville, hein, qui n'est pas très connue. Souvenez-vous-en. Ah. Ça nous a montré que malgré tous nos temps, la mort quand même, ça nous fait quelque chose, hein. Même si on est hyper civilisé, dès qu'on dit c'est la fin, les plus riches cherchent à se sauver, se mettent à l'abri. Bougara serait en effet, selon une croyance sinon répandue, en tout cas de plus en plus diffusée sur les toiles, l'un des seuls, sinon le seul endroit sur Terre à être épargné lorsque surviendra le 12 décembre 2012 ou le 21. Ça dépend de la façon dont vous alignez les chiffres. Si c'est 1-2, donc c'est le 12. Si c'est 2-1, c'est le 21. Bref. Si chez la grande majorité de nos citoyens, cette annonce fait sourire, il est au moins deux catégories qui ne rient pas. Ceux qui y croient et les boukarachois. Parce qu'ils ont vu le phénomène. En fait, ils ont vu les gens déferler là, dans cette vallée, avec une grotte au-dessus. C'était incroyable. Incroyable. Et ça, c'est un phénomène qui nous arrive et ça montre combien notre civilisation, malgré tout, est fragile par rapport à ça. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des fausses prédictions. Je vous en ai mis 8 sur la diapo d'après. Vous n'allez pas les voir forcément, mais il y en a sur la toile, il y en a combien de fois on a dit que c'était la fin du monde? Combien de fois? En l'an 1000, on déterra le corps de Charlemagne parce qu'une légende disait que grâce à lui, quelque chose allait se passer. 1832, Joseph Smith, fondateur de Mormon, prédit que Jésus reviendrait en 1890. Bon, on est en 2021. C'est toujours pas de retour. La société des tours des gardes, donc des témoins de Jéhovah. Trois prédictions. 1914, 1975, 1994. Ils avaient annoncé clairement dans leur revue, la tour des gardes, que c'était la fin du monde à ces dates-là. Bon, on est en 2021. Et je vous en passe des belles et des meilleures. Ça montre que notre monde lui-même, il sait que les choses vont se passer. Il sait. Mais comme Jésus l'a dit aux Juifs, il est aveuglé. Il ne veut pas ouvrir les yeux. Il est dans l'incrédulité. Et plus Dieu fait grâce à l'humanité qui devient une humanité civilisée où l'espérance de vie s'allonge, plus on dit, bah, votre Dieu n'existe pas. Regardez, on est capable d'allonger notre espérance de vie. Au lieu de voir en l'espérance de vie la grâce de Dieu, parce que Dieu vous fait durer plus longtemps pour vous avoir plus d'occasion de vous donner à lui. Ben oui. Plus on dure dans la vie, plus on a la grâce de rencontrer le Seigneur. Mais vous en faites un objet pour ne pas rencontrer le Seigneur. C'est dommage. Et à Jésus de rappeler, dans Matthieu 24, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, Noé a annoncé, il a crié, Dieu lui a dit, écoute, je vais envoyer le deuxième. Oh là là, Noé, franchement. Mais qu'est-ce que tu racontes encore, Noé? Le déluge va tirer, mon gars. Et puis, il a obéi à Dieu, il a commencé à construire ce fameux navire. Mais il est sérieux dans son truc, en plus, il construit un navire. Mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Et Noé raconte ce qu'il fait, les gens. Pauvre Noé, t'as perdu la boule, Noé. Franchement. Et les gens continuaient. Il avait dit, ils continuaient comme auparavant. Et Jésus dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera encore. Malgré l'annonce de la bonne nouvelle, malgré l'annonce que Dieu fait grâce et que le monde ne va pas bien dans le sens où notre destination finale à tous c'est l'enfer, on dit non, on voit bien que c'est pas l'enfer là, tout va bien. Jésus dit, comme au temps de Noé, c'est ça. Et moi, j'ai compris une seconde compréhension en dessous, c'est, vous savez, on est tous dans l'idée qu'on va mourir vieux, couché dans notre lit. Nous, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Le jour où tu meurs, c'est là que tu es mort. C'est là que, comme au temps de Noé, bah, tu es parti. Mais la question, passe cette diapo, s'il te plaît. Passe celle-là. Voilà. La question, c'est, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Il semble que cette petite jeune qui est partie, elle était prête. Elle en a parlé à sa famille. Sa famille aura le temps de rendre le témoignage. Elle était prête. C'est incroyable. À cet âge-là. Mais comme Stéphane l'a dit, on n'a pas besoin de le savoir, puisque cette petite, elle aimait évangéliser, elle aimait parler de Dieu. Et son père a des témoignages qui lui-même parfois lui coupe le souffle. Il rentre dans un magasin, il voit le vigile, et là il dit, monsieur, connaissez-vous Jésus? Et Adrien dit, franchement, je suis arrêté, je regarde ma fille. Puis elle dialogue avec le monsieur. Et moi, les fois où je l'ai visité, c'est elle qui me dit, pasteur, tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien, mais toi? Du pasteur, ça va. Bon. Et puis on parle de Dieu. Puis elle me parle de tout ce qu'elle fait. Mais sa famille aura l'occasion. Est-ce que moi je suis prêt? Moi, Serge, est-ce que je suis prêt? J'ai la foi en Jésus-Christ. C'est une question qui me reste en éveil, moi. Qui me reste en éveil par rapport à ma confiance en Dieu, par rapport à ce que Dieu me demande de vivre pour la gloire de son nom. Être prêt, c'est pas qu'on est suicidaire, c'est pas qu'on attend la mort, non. C'est... Est-ce qu'on est en train de vivre le projet que Dieu veut qu'on vive? Est-ce que je vis comme Dieu veut qu'on vive? C'est ça être prêt. Être prêt, c'est, est-ce que chaque jour je vis ce que Dieu m'a donné de vivre? C'est pas de calculer le jour de mon départ. Non, ça, ça sert à rien parce que tu le sais pas. Mais c'est de vivre chaque jour cette grâce que Dieu te donne d'être une chrétienne, d'être un chrétien, de vivre comme un chrétien, comme une chrétienne. C'est la vérité, sera tu prêt, la foi chrétienne sera-t-elle toujours d'actualité? Vas-y. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit, tu peux passer. La conversion, bien-aimée. La conversion. C'est se reconnaître pécheur devant un Dieu saint. De se repentir de ses péchés et de se confier dans le don de Dieu. Jésus-Christ mort pour nous procurer le pardon. Selon Éphésiens 2, 1 à 10. Lorsque nous nous confions à Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et il nous vivifie. Avant, notre compréhension de la foi biblique était obscure. Maintenant, avec la conversion, l'Esprit de Dieu, nous pouvons mieux comprendre et accueillir la vie spirituelle et mieux la vivre. Maintenant, nous devons choisir de vivre dans la lumière de cette vie nouvelle et refuser de retourner dans les ténèbres. Lorsque nous obéissons à la Bible, la parole de Dieu, l'Esprit travaille en tandem avec nous pour changer et transformer constamment notre être intérieur et qui se réjaillit sur ce que nous sommes à l'extérieur. Est-ce que c'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, mon frère? Est-ce que c'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, ma sœur? Si c'est ça, alléluia. Garde la foi. Continue. Tu es sur la bonne voie. Si c'est pas le cas, réveille-toi. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Bouge-toi. 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 Et pour finir, ces trois tests sur lesquels je reviendrai dimanche prochain pour parler de notre espérance. Notre espérance, pourquoi cette espérance, elle vaut la peine d'être vécue avec Jésus. Le paradis, nous le vivons déjà ici, en attente de ce que nous allons vivre aussi avec le Seigneur. Oui, l'Éternel va consoler Sion. Et de ses ruines, il aura compassion. Il rendra son désert semblable au paradis. La steppe deviendra comme un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse y régneront. Et l'on y entendra de la musique et des chants de reconnaissance. Luc 22, 43. Et Jésus lui dit, là il parle de ce brigand qui dit, s'il te plaît, ma vie n'a pas été conforme. J'ai été mauvais jusqu'au bout. Mais ce soir, j'ai une belle opportunité. Veux-tu, s'il te plaît, Jésus, me prendre avec toi quand tu seras dans le paradis. Et Jésus de répondre, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. 2 Corinthiens 12, 1 à 5 dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle d'une expérience extraordinaire qu'il a fait avec Dieu. Il dit, s'il faut faire le fier, certes, c'est inutile, mais j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais qu'un tel homme était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Je serai fier d'un tel homme, mais de moi-même, je ne serai pas fier sinon de mes faiblesses. Il a fait cette grosse expérience avec Dieu. Et il dit, c'est incroyable. Et si vous lisez la vie de l'apôtre Paul, ses expériences sont tellement marquées qu'il dit, pour moi, la mort m'est un gain, ma vie, c'est le Christ. Il dit, désormais, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, fixant les regards vers Christ, je cours pour remporter cette couronne de la gloire céleste, en vivant comme Dieu veut sur la terre, n'est-ce pas? Et il dit aux chrétiens, il dit, pour vous, je suis une libation, parce que ma vie, je veux tellement vous aimer, je vous aime tellement, je veux faire tout ce que Dieu veut que je fasse pour aimer mes frères, pour bénir mes frères, pour annoncer l'évangile. Il dit, peu importe ma vie, si même on doit me tuer, mais j'annoncerai aux hommes, sauvez-vous de ce siècle méchant, parce que la fin de la vie, c'est l'enfer, mais Dieu vous offre le paradis. C'est ce qu'il n'a cessé de faire. Il a sillonné tous les hameaux, tous les villages pour crier ça. Parce qu'il dit, je vous aime d'un amour de Christ. Et ma vie, je l'offre pour que vous entendiez ce message et que vous changez de vie. Et à la fin de sa vie, il a dit, j'ai couru le bon combat, j'ai fait la bonne course, j'ai remporté le prix. Je sais que désormais, la couronne de victoire m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui sont aussi dans cette marche comme moi. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis.